Bienvenue à Biozone pour cette 39e édition. Donc, on a démarré ce matin avec un petit débat radio concernant l'émancipation et la coopération. Donc, je pense que le titre de cette 39e édition ne vous a pas échappé. On a choisi dans l'association de parler de l'émancipation et même on a intitulé ça « S'émanciper, comment reprendre ensemble le pouvoir sur nos vies ». Alors, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont pu mener à ça. Il y a beaucoup de sous-thématiques par rapport à cette thématique. On voulait parler de comment est-ce que les citoyens, les individus peuvent reprendre prise sur leur consommation. On voulait aborder aussi des questions de comment est-ce que les citoyens peuvent être plus autonomes vis-à-vis de la société de consommation. Mais pour ça, on voulait surtout pas rentrer dans les questions de développement personnel. Il ne s'agit pas d'une démarche individuelle, mais pour nous, c'était vraiment important de reparler du rôle du collectif dans cette émancipation. Et quelque chose qui est venu rapidement sur le tapis, c'est le sujet des low-tech. Parce qu'on trouvait que ça répondait très bien du coup, à notre thématique. Donc, je ne sais pas si les low-tech, ça parle à tout le monde, mais justement, on accueille Pierre-Alain Lévesque qui va pouvoir nous parler du monde des low-tech, puisque Pierre-Alain, depuis un certain nombre d'années, réseaute beaucoup dans ce milieu. Donc je te laisserai définir les low-tech. En tout cas, on a la chance en Bretagne d'être sur un territoire assez dynamique sur ces questions-là. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment pas passer à côté. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a invité Pierre-Alain ce matin. Donc Pierre-Alain va se présenter aussi lui-même. Mais en tout cas, peut-être que vous avez déjà entendu parler du Low-Tech Lab ou du projet Nomade des Mers avec Corentin de Châtel-Perron. Ça a été beaucoup médiatisé. Voilà, et donc aujourd'hui, Pierre-Alain a démarré un nouveau projet avec la base low-tech. Donc vous allez voir que c'est un sujet quand même très très intéressant qui rejoint beaucoup d'enjeux de société actuelle, à savoir des sujets de réduction de consommation de ressources, d'énergie. C'est aussi une autre façon d'aborder l'économie. Et puis derrière, il y a aussi le facteur humain, le lien social. En fait, ça répond à beaucoup, beaucoup de problématiques d'aujourd'hui. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Pierre-Alain. Donc, juste pour préciser le cadre, il y aura une heure d'intervention et puis après, il y aura une demi-heure d'échange. Donc, on fera circuler le micro. Donc, voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour les échanges.
Eh ben, bonjour à toutes et tous, ça fait plaisir d'être avec vous en ce début d'après-midi. J'espère que la digestion n'est pas trop lourde, parce que je parle assez vite, ça va être assez dense. Mais bon, voilà. En gros, ce que je vous propose là pendant une petite heure, ça va être de vous parler de ce que nous on considère comme étant l'approche low-tech. Un truc qui est important avant de commencer, c'est que moi je suis plutôt dans la pratique, je ne suis pas un grand théoricien, donc ça veut dire que ce que je vais apporter, c'est plus des retours d'expérience. J'ai pas la science infuse, donc faut pas hésiter à avoir un regard critique sur ce que je raconte. Ça pourra servir aussi tout à l'heure dans la partie discussion pour débattre, échanger, etc., etc. Ah, petit problème de fil. S'émanciper des fils. Première étape. Hop. Du coup, pour me présenter vite fait, j'ai une formation d'ingénieur à la base généraliste. Je suis un des cofondateurs d'une asso qui s'appelle Low-Tech Lab, qui a germé d'abord à Concarneau, qui a pour objectif de mettre en lumière des pratiques, des techniques qui sont plus simples, plus accessibles et plus durables pour répondre aux besoins qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Donc pour avoir une première définition de l'approche low-tech, c'est un peu ça. Mettre en œuvre des techniques et des pratiques plus simples, plus accessibles, plus durables pour répondre à nos besoins. On peut avoir ça en tête comme première définition. Et puis depuis 2-3 ans, là, je suis en train de bosser sur un projet du côté de la baie de Saint-Brieuc qui s'appelle la base low-tech. qui a pour objectif de proposer un atelier partagé pour des gens qui ont envie d'entreprendre leur métier en y insufflant l'approche low-tech, pas mal au niveau artisanal et paysan, et puis que ce soit un lieu d'accueil, de partage, de formation, etc., etc. Donc là, on est en pleine construction du projet, et puis je reparlerai un petit peu à la fin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet des low-tech, moi j'aime bien faire un petit virage par une notion qui me paraît hyper importante, qui est celle des imaginaires. Donc si vous voulez bien, je vais vous proposer deux petits exercices, deux petits jeux, on va dire. Et puis pour celles et ceux qui ont envie de participer, il ne faudra pas hésiter à parler. Hop. Alors le premier truc, je vais afficher un mot à l'écran. Et j'aimerais bien que dans votre tête, alors ça va être, peut-être être un peu biaisé de par le type de personnes qui viennent dans ce genre d'événement, mais on va voir ce qui se passe. Je vais afficher un mot à l'écran et j'aimerais bien que dans votre tête, de manière très spontanée, vous notiez les premières idées, les premières images, les premiers concepts qui vous viennent en tête. Mais sans chercher à mentaliser le truc ou à le réfléchir, etc. Vraiment très spontanément. Et pour celles et ceux qui ont envie de le partager à voix haute, bah de le faire. Ça va ? Ça va pas durer, ça va durer 20 secondes, ça va être vite fait. Ce mot, c'est futuriste, qui évoque l'état futur de l'humanité tel qu'on peut l'imaginer. À quoi ça vous fait penser ce mot de futuriste ? Les robots. J'ai pas entendu. Ah oui, les robots. Inky Bilal. Végétal. Oh là, j'ai eu plusieurs trucs en même temps, j'ai pas tout entendu. Déshumanisé. Dégradation. Avenir. Intelligence artificielle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer ? Ouais. S'entraider ou s'entretuer, comme dirait Yves Cochet. Comment ? Dystopie. Bon. En fait, vous êtes... Ça va. Je pensais que ce serait un peu le plus biaisé, mais pas tant que ça. En gros, pour caricaturer dans la tête, en fait, dans nos sociétés, dans notre crâne, on a souvent... Alors, je sais pas si on voit grand-chose avec le soleil, là, mais on a souvent un imaginaire du futur qui est très lié, justement, ouais, à tout ce qui est robot... Moi, j'ai mis Bruce Willis dans le cinquième élément, Elon Musk avec ses délires d'aller sur Mars, etc. C'est souvent ça qu'on a dans la tête dans nos sociétés quand on se projette dans l'avenir. Et c'est souvent connoté de manière négative. Je ne sais pas pour vous, mais moi, un futur à la Bruce Willis, ça ne me donne pas vraiment envie. C'est des apparts aseptisés dans le cinquième élément. Là, on est dans des grandes villes où il fait noir. Ça, je sais pas, je me dis que ça pue, etc. Et ça, bah, en fait, ça ne donne pas envie à grand monde. Ça, c'est un truc qui est ultra important parce que, en fait, si on ne se crée pas d'autres images du futur... Il n'y a pas de raison qu'il y ait un autre futur qui advienne. Vous parliez de dystopie tout de suite. En fait, ça, c'est souvent des imaginaires qu'on va retrouver justement dans les récits d'anticipation, dans les films, dans les dystopies. Si on pense à la série Black Mirror, par exemple, on vient tirer ça. Et en fait, on a l'impression qu'on vient puiser dans ces trucs qui ne nous font pas envie pour le mettre en œuvre dans le réel. C'est quand même assez terrible. Alors qu'une des caractéristiques principales de l'être humain, c'est quand même son pouvoir d'imagination. Donc ça vaut vraiment le coup de se poser à l'échelle individuelle, de la société, collective, dans son entreprise, etc. De se dire bah, vers quel futur je veux aller et de se mettre en mouvement pour aller vers ce futur-là. C'est un petit effort à faire, mais qui peut être super sympa. Donc ça, c'était un premier truc dont je voulais vous parler. Et deuxième petit exercice, c'est une représentation que j'ai piquée dans les rapports du GIEC des interactions qu'en tant qu'individu, société, on va avoir dans notre vie de tous les jours. On a des interactions avec le monde du vivant, donc avec le monde de la biosphère. Avec le monde des autres êtres humains, c'est la sociosphère. Et puis avec le monde des techniques, c'est la technosphère. Et là, je pose une petite hypothèse. Vous avez le droit de me dire si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais c'est qu'en gros, un des objectifs avant de finir les deux pieds dans la tombe, tant qu'à faire, c'est d'essayer d'atteindre une certaine forme de bonheur. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça. Ça va ? Alors ce que je vous propose, c'est de recogiter à des moments épanouissants de votre vie. Je vous demande pas de nous raconter ce que c'était. Par contre, de nous dire, pour ceux qui ont envie, si c'était plutôt en interaction avec la biosphère, la sociosphère ou la technosphère. Sociosphère. Biosphère. Bon, ça va, vous êtes normaux, encore une fois. Effectivement, on va très... Enfin, sauf des fois des petits malins qui me disent « Ouais, il y a un peu la technosphère. » En fait, c'est là-dedans, dans ces sphères-là, qu'on vient tirer de l'épanouissement, etc. Et ça, c'est assez marrant, c'est pourquoi est-ce qu'on va creuser l'innovation, ce qu'on appelle le progrès, tous les récits d'anticipation, même les dystopies, etc., quasiment exclusivement dans la technosphère. Alors qu'a priori, le cap qu'on pourrait donner à la croissance, à l'innovation, etc., ce serait plutôt dans ces deux sphères-là. Donc voilà, je ne suis pas philosophe, donc je ne vais pas rentrer plus loin dans ces trucs-là, mais c'est des notions qui sont importantes à avoir en tête. parce que c'est un peu une des bases de ce qui va nous emmener ensuite sur l'approche low-tech. Je vais juste finir par une petite citation d'Einstein. Donc le gars, il est mort il y a quand même quelques années. Il disait « Ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion des fins. » Je trouve que c'est toujours super vrai. On s'amuse à développer des tas de trucs, des gadgets, des machins. En fait, on oublie souvent de questionner le truc de base, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et ça, c'est le point de départ de l'approche low-tech, c'est de se questionner sur le pourquoi, le besoin de base. Et c'est vraiment ça qui va nous emmener ensuite sur la suite de la présentation. Donc ça, c'est des petites questions qu'on commençait nous titiller il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. On était avec d'autres membres de l'association actuelle au Bangladesh dans le cadre d'un projet de développement. Et puis, il y a des petites scènes un peu trash qui sont empilées dans notre esprit. Le Bangladesh, au même titre que plein d'autres pays, c'est un peu un pays envers du décor qui est généré par nos sociétés. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il y a beaucoup des vêtements qu'on porte qui sont produits là-bas, dans des conditions sociales et environnementales qui ne sont vraiment pas top. Nous, on habitait dans une cabane près d'un bras du Gange, et en fonction des teintures utilisées par l'usine qui était en amont, l'eau du fleuve a changé de couleur. Et sauf que les gens, ils nettoient leurs légumes là-dedans, ils se lavent dedans, etc., etc. Donc c'est bon, bref, ça c'est pas grand chose par rapport à d'autres scènes sur la planète, mais ça nous a un peu impacté. Ici, ça c'est dans le sud du pays, à Chittagong. C'est une grande baie où il y a plein de cargos qui servent à faire le fret international, qui finissent leur vie, qui sont désossés dans des conditions vraiment terribles. Vous voyez la vase là, en gros les ouvriers ils pataugent dans la vase en tongs, ils vont avec des chalumeaux pour découper les cargos, ils ont juste des lunettes de soleil pour se protéger. Et ça, c'est un peu caché. Il y a Hugo Clément qui a réussi à rentrer dans cette zone-là il n'y a pas très longtemps pour en faire un peu des reportages. Donc voilà, ça, c'est des petits trucs qui nous ont un peu questionnés en se disant on n'a pas trop envie de contribuer à un monde qui génère ce genre de scènes sous le tapis. Et il y a une autre question qu'il faut se poser. C'est pas le tout de se dire est-ce que le futur vers lequel on va, il nous donne envie. Il y a la question qui est peut-être plus essentielle, c'est est-ce que c'est un futur qui tient la route. Et moi, il y a un outil que j'aime bien, qui s'appelle l'outil des limites planétaires. Alors, est-ce que ça, c'est un outil que vous connaissez ou pas? Pas tout le monde. Alors, on va repasser vite fait dessus. Les limites planétaires, c'est des grandes limites qui ont été définies par des scientifiques du Centre de résilience de Stockholm comme étant des grandes limites à pas dépasser pour que l'humain puisse tout simplement s'inscrire de manière durable sur la planète. Donc, on va retrouver le changement climatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a la perte de biodiversité, il y a le changement... d'usage des sols, par exemple, artificialisation, les perturbations du cycle de l'azote, du phosphore, etc. etc. Et puis, en gros, vous comprenez assez vite le schéma. Quand on est dans la zone verte, c'est que ça va encore. Et dès qu'on dépasse la zone verte et que ça devient orange-rouge, c'est qu'on a dépassé la limite. Aujourd'hui, en 2022, alors ça date de 2023, il y avait 6 limites de dépasser. Je crois que là, on est en train d'avoir... réussi à mesurer, et on est en train de dépasser l'acidification des océans en plus. Donc ça fait 7 limites sur 9 qu'on est en train de dépasser. Il y a certaines limites où on peut faire machine arrière. C'est le cas par exemple pour la couche d'ozone. Il y a des limites, une fois que c'est dépassé, ça va être une sacrée galère de faire machine arrière. Et puis en plus, les limites, elles sont interdépendantes. Donc quand on tire un fil quelque part, ça vient bouger les autres. Donc ça, c'est un outil que j'aime bien parce qu'il permet de comprendre une bonne fois pour toutes que la direction dans laquelle on va, c'est pas la bonne, c'est la merde. Mais c'est un outil qui est aussi bien parce que ça permet de se donner un cap. Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour, dans nos modes de vie, rester dans les limites planétaires? Et il y a une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth qui a repris ces limites-là. Donc, on passe sur ce schéma ici. Et en regard des limites planétaires, qu'elle appelle le plafond écologique, elle a créé ce qu'elle appelle le plancher social. Est-ce que sur la planète, aujourd'hui, on est capable d'apporter des conditions de vie dignes à l'ensemble de l'humanité? Donc on va retrouver l'accès à l'eau, à l'alimentation, à la santé, etc. Puis on va aussi retrouver des notions comme l'équité, la justice sociale, etc., etc. Et puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on n'est pas capable aujourd'hui d'apporter des conditions de vie dignes à l'ensemble de l'humanité, alors qu'on est en train d'éclater allègrement les limites planétaires. Donc voilà. Et du coup, ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'elle dit on peut définir la performance d'une économie, en tout cas on peut utiliser cet outil non plus pour définir la performance d'une économie seulement sur l'aspect financier, mais aussi intégrant le respect des limites planétaires et le respect du plancher social. Et donc cet outil, ça permet de fixer un cap et de se dire ok, c'est la merde, mais hop, on peut mettre en œuvre des choses pour se mettre en route vers un avenir qui tient la route. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'on peut l'utiliser au niveau mondial, donc on peut avoir un schéma global du constat, on va dire, mais on peut aussi le régionaliser au niveau d'un pays. au niveau d'une ville, au niveau d'une entreprise. Il y a des entreprises qui maintenant commencent à intégrer ce qu'on appelle de la triple comptabilité, non plus pour avoir juste le bilan financier, mais qui intègrent aussi l'aspect humain et écologique. Donc ça, c'est pour ça que j'aime bien cet outil. Ça permet de se dire, ok, c'est pas top, on peut réduire un petit peu le flux d'informations négatives et puis se mettre en route vers quelque chose qui nous plaît mieux. Et c'est ce qui nous emmène maintenant sur l'approche low-tech. Alors toujours au Bangladesh, il y a un truc qui a piqué notre curiosité, cette fois-ci plutôt de manière positive, c'est la manière dont localement les gens, comme en fait dans plein d'autres contextes, avec pas grand-chose, avec des moyens simples, des ressources locales, des savoir-faire locaux, et bah, grosso modo, ils arrivent plutôt bien à répondre à leurs besoins de base, et en plus d'une manière assez joyeuse et conviviale en fait. Et on s'est dit, bah purée, c'est un peu con parce que tout cette espèce d'état d'esprit qui donne naissance à des pratiques, à des techniques qui sont souvent bricolées, c'est pas considéré comme de l'innovation. On va se dire, bon, c'est un peu, voilà, on va pas s'intéresser à ça. Alors que, en fait, ça peut servir à plein de personnes dans des contextes similaires à répondre à leurs besoins de manière plutôt simple, plutôt accessible et plutôt durable. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire, bah, est-ce qu'on pourrait pas contribuer à mettre ces initiatives en lumière pour, en utilisant notamment Internet pour diffuser ça largement, que ça puisse servir à d'autres personnes. Et aussi, en fait, on puisse créer une sorte de plateforme un peu comme Marmiton où n'importe qui peut mettre des recettes, et ben que n'importe qui puisse venir apporter son expertise, ses retours d'expérience, etc., etc., pour faire une sorte de recherche et développement collaborative et itérative. Donc on a lancé ça en 2013-2014, on va dire. Et puis, pour amorcer un peu la pompe, on a monté un premier projet qui s'est appelé l'expédition nomade des mers. Donc c'est Corentin qui était le capitaine permanent à bord du bateau, dans l'idée d'aller rencontrer plein d'initiatives, principalement dans les pays de la ceinture tropicale, parce que c'est souvent dans ces endroits-là qu'on va retrouver un peu cette espèce d'état d'esprit ingénieux, et puis de passer du temps avec ces initiatives pour nous monter en compétences, apprendre auprès d'eux, documenter, partager, et puis que ça puisse servir aussi de support pédagogique, notamment avec Arte qui a suivi l'expédition pendant les 6 ans, pour partager tout ça. Et donc à bord du bateau, on peut voir, en fait, on a testé plein de trucs. Là, il y avait la production de légumes feuilles en hydroponie, donc on n'utilisait pas de terre, parce qu'à bord du bateau, on ne pouvait pas utiliser de la terre, c'était trop lourd. On utilisait notre urine, qui était un déchet pour nous, en tout cas, pour faire pousser les plantes. On a fait pareil avec de la spiruline, qui est une petite algue qui est riche en protéines. Il y avait des pédaliers outils, on a fait des élevages d'insectes comestibles, il y a des trucs qui ont bien marché, il y a des trucs qui ont complètement foiré, mais en tout cas ça nous a permis d'apprendre, en fait, d'expérimenter tout ça. On avait le petit fil rouge de vouloir rendre le bateau de plus en plus autonome, ce qui n'était pas une fin en soi, mais c'était un bon moyen, en fait, de mettre la main à la pâte et puis d'être un bon support pédagogique. Et donc ce tour du monde, il a duré 6 ans. On est parti de Concarneau en février 2016. On est d'abord passé du côté du... Alors la carte, tac tac... Ouais, c'est comme ça. On est parti, on a descendu les côtes africaines d'abord par le Maroc, le Sénégal, après on est allé au Cap-Vert, Brésil, et puis hop, le tour il a suivi par l'Afrique du Sud, l'Asie, et c'est revenu par les États-Unis. Donc on a rencontré des centaines et des centaines de personnes. Et alors ce qui était intéressant, en tout cas pour moi dans ce tour, c'est qu'on a appris plein de trucs techniques, mais ce qui était presque la leçon la plus intéressante, c'est de capter ce qui se passe avant la technique. C'est quoi un peu l'état d'esprit qui se cache derrière? Et il y a trois principes, on va dire, qu'on retrouve chez quasiment toutes les initiatives qu'on a pu rencontrer, qui sont pour moi ce que j'appelle le premier pilier de l'approche low-tech, les trois principes socles, qui sont, je pense, le truc le plus important, ou un des plus importants, avant de parler technique, avec une première notion qui est celle d'expérimenter sur soi en premier. C'est-à-dire que quasiment toutes les initiatives ou les personnes qu'on a rencontrées, c'est tout le temps elles-mêmes les premiers cobayes de leurs idées. Ça, c'est un truc que je trouve, c'est pour ça que j'ai mis la petite tête de Gandhi, là, qui disait « il faut incarner le changement qu'on veut voir dans le monde ». Je trouve ça hyper important parce que, en fait, le fait de s'appliquer à soi-même ce qu'on veut, ce qui nous semble intéressant, ça crée forcément un contexte d'usage qui n'est pas hors sol. Là où en France, par exemple, moi j'ai pu le voir un peu pendant mes études d'ingénieur, on va développer des machins devant son ordi, on met ça sur le terrain, et en fait ça marche pas parce qu'on a juste réfléchi par le prisme technique. Et il y a plein de trucs culturels, sociaux, etc., qui sont pas pris en compte, qui font qu'une bonne solution va fonctionner ou pas. Et dans le monde humanitaire, par exemple, si on prend les fours solaires, alors c'est cool, un four solaire ça fonctionne techniquement, mais il y a plein d'endroits où ça n'a pas pris, parce qu'en fait on s'est pas rendu compte, enfin on n'a pas pris le temps d'aller voir par exemple que les femmes, en fait, elles se levaient à 5h du mat pour aller s'occuper des enfants, aller travailler, ramener de l'argent, elles ont d'autres choses à faire que de rester toute la matinée à tourner le four solaire pour faire la bouffe par exemple. Donc voilà, cette notion là elle est très importante. Et puis L'autre truc, c'est que quand on rencontre quelqu'un qui est un peu droit dans ses baskets et qui tend à aller vers ce qui lui semble bon, ça, ça crée naturellement une sorte de force de... d'inspiration, on va dire, qui pour sa communauté permet d'embarquer du monde avec soi. Donc ça fait un... je trouve que c'est un point super positif. La deuxième notion, c'est la notion d'inclusion à l'écosystème local. Alors dans nos sociétés, nous, on est plutôt... il y a l'être humain, puis il y a ce qu'on appelle la nature en dessous. On prend une ressource, on l'utilise, ça fait un déchet, on le jette. C'est quelque chose d'assez linéaire, même si on commence à parler d'économie circulaire. Dans ces initiatives liées à l'approche low-tech, il y a tout le temps l'idée qu'en fait, on est un élément à part entière de l'écosystème. On a nos besoins, on a nos sortants. Les autres éléments, c'est pareil. Et il y a beaucoup la notion de se dire comment les déchets des uns peuvent servir de ressources aux autres. Et ça, c'est hyper important pour essayer de boucler la boucle, même si c'est jamais parfait. Et puis, la troisième notion, c'est celle de simplicité, de sobriété. Si vous refouillez un peu sur le net, on peut trouver tout un tas de gadgets comme un distributeur automatique de croquettes pour chat ou des bikinis connectés. Bon, ça, c'est, à mon sens, vraiment débile parce qu'on va utiliser des métaux rares, des métaux précieux pour faire de l'électronique, etc., pour des besoins qui sont... ce qu'on peut, on peut même pas appeler ça un besoin, c'est assez futile. Bah, typiquement, dans une initiative liée à l'approche low-tech, il n'y aura jamais de l'énergie qui sera mise dans quelque chose qui est considéré comme superflu comme ça. On va tout le temps tâcher de réfléchir aux besoins de base. Et il ne faut pas se voler la face, ça, c'est souvent parce qu'on s'est dans des contextes très contraints, notamment financièrement. Je pense que si les gens ils avaient plus de moyens, peut-être qu'ils iraient aussi vers ce genre de choses. Mais la contrainte crée justement cette simplicité, cette sobriété. Voilà un petit peu les trois principes socles. Et puis pour illustrer un peu ça, des bonnes leçons pour nous. Une de nos premières étapes, c'était à Dakar. On s'était arrêté là-bas pour travailler avec des makers, des makeuses, des bricoleurs en fait, dans un Fab Lab sur la production d'électricité pour les primo-accédants. Donc des gens qui n'ont pas encore accès à l'ELEC. Et nous, on s'est dit, Dakar, c'est sur une pointe ventée, il y a du vent, on va partir sur de l'éolien. Et puis, avec nos gros sabots d'ingénieurs, on est venu dans nos valises les plans d'une éolienne qu'on peut fabriquer de A à Z, qui s'appelle l'éolienne Pigott, du nom de son inventeur, Hugh Pigott, qui en Écosse, sur son île, a fabriqué cette éolienne. Donc en gros, on peut sculpter les pales dans du bois, on récupère un moyeu de voiture, on va mettre des aimants au néodyme dessus, on va faire des bobines avec du fil de cuivre, et puis en fait, ça permet de générer de l'élec avec des petits ponts de diode derrière. Hop, on peut avoir des éoliennes de 200 watts instantanées à 3000 watts instantanées. Donc on s'est dit, c'est bien, c'est low-tech, on va faire ça. Donc on commence à fabriquer l'éolienne, et puis assez vite, les makers ils nous disent, il y a plusieurs soucis dans votre histoire là. Déjà, on galère à trouver certains matériaux ici, notamment les petits aimants au néodyme qui servent à générer l'électricité. Et c'est vrai que c'était compliqué de les trouver là où en France, il n'y avait pas de soucis. Donc ça a commencé à nous titiller en nous disant, ce qu'on considérait low-tech par chez nous, c'est peut-être pas le cas partout. Deuxième petit souci, et pas des moindres, c'est que en fait, la plus petite de ces éoliennes là, qui génère à peu près 200 watts en instantané, 200 watts instantané, pour info, c'est grosso modo, on va dire, 4 ordi comme ça en charge. Donc c'est pas non plus énorme. Ça coûte 450€ de matériel. Et quand on n'a pas accès à l'ELEC, on va pas s'amuser à mettre 450€ de matos dans une éolienne comme ça. Et le troisième point qui était peut-être le plus important, c'est que parmi les personnes qui étaient là, il y avait des gens qui n'avaient pas l'ELEC. Et ils nous ont dit, mais en fait, nous, notre besoin, c'est de recharger notre téléphone et une petite batterie pour avoir de la lumière le soir. Sachant que, par exemple, il y a des taux de réussite scolaire qui sont directement liés au fait d'avoir de la lumière le soir ou pas pour l'école. Et ça, en réalité, avec quelques dizaines de watts instantanés par jour, pendant quelques dizaines de minutes, heures, on va dire, ça peut faire largement le boulot pour répondre à ce besoin-là. Donc l'éolienne de 200 watts, elle était largement surdimensionnée. Donc on a arrêté notre histoire. Et puis là, les gens qui étaient là nous ont emmenés dans un endroit qui s'appelait Coloban, qui était un haut lieu de recyclage informel de plein de déchets de l'Occident qui arrivaient là. Et puis on a identifié des moteurs pas à pas dans des vieux photocopieurs. Donc les moteurs pas à pas, c'est ce qui fait avancer les feuilles là, par petit à coup. Du fer à béton, des tubes en PVC, des petits ponts de diode et tout ça. Et pour moins de 5€, il y a une petite éolienne qui a été conçue qui permettait de produire 30 watts en instantané. Et ça, c'était une bonne leçon pour nous de plusieurs choses. La première, c'est de bien définir le besoin de base avec les bénéficiaires finaux dès le début et pas de s'aventurer à imaginer c'est quoi qui pourrait être bien pour eux. Donc ça, c'est vraiment essentiel et ça rejoint justement le fait d'expérimenter sur soi en premier. C'est que, en fait, on est souvent le mieux placé pour définir le besoin pour nous et il faut écouter les autres et si possible les embarquer avec soi si on veut concevoir quelque chose pour eux, parce que sinon on va être à côté de la plaque. La deuxième notion, c'est celle de la subsidiarité. Ça, c'est un concept qui dit que la solution la plus pertinente à une problématique, c'est bien souvent la solution qui est conçue au plus proche du contexte de la problématique, notamment parce qu'on va embarquer les bénéficiaires finaux et aussi tous les codes culturels qui vont avec. Et c'est souvent ça qui fait la bonne réussite d'une solution. Et puis une autre notion qui est assez intéressante, c'est celle d'innovation sous contrainte. Ça, je pense que vous avez peut-être déjà tous expérimenté. Vous arrivez, je sais pas, le soir chez vous, de soirée, un peu fatigué, vous avez faim, vous ouvrez le frigo, il n'y a pas grand-chose dedans. Hop, vous arrivez quand même à improviser un truc pas si mal que ça. On va dire que c'est un peu pareil, là. C'est en s'appuyant et en prenant, on va dire, la contrainte, notamment financière, comme une règle du jeu, que la petite éolienne de moins de 5 euros, elle a pu être conçue. Et donc, les gens se disent pas, oh, c'est chiant, on n'a pas de moyens, etc. C'est plutôt l'inverse, de dire, bah, hop, voilà ce qu'on a sous la main et voilà comment on va pouvoir se débrouiller. Donc ça, c'est trois notions super importantes. Et qui vont bien, je pense, avec la thématique de s'émanciper de cette foire Biozone. Et alors, je ne vais pas trop rentrer dans les trucs théoriques et tout ça, mais je voulais quand même. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit zoom là-dessus, parce que quand on parle de besoin de base, en fait, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. En dans le modèle, pour les entreprises, des besoins, c'est des trucs jamais satisfaits, il faut tout le temps en créer pour vendre plus, etc. Quand on pense besoin aussi, on peut penser à la pyramide de Maslow, que vous connaissez peut-être, où il faut d'abord satisfaire les besoins de base comme dormir, manger avant de passer à l'étage suivant, etc., etc. Alors ça, socialement, on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Il y a un outil que j'aime bien, moi, qui est la matrice des besoins humains fondamentaux. C'est un sociologue chilien qui a mis ça au point, qui s'appelle Manfred Max Neef. Et en fait, on va se rendre compte qu'il a créé une matrice où on va repérer plein de besoins différents. Donc bien entendu, on va repérer l'accès à l'eau, à l'aliment, enfin bien pouvoir se nourrir, pouvoir boire, pouvoir dormir, etc. Puis il y a plein d'autres choses comme la convivialité, s'amuser, etc. Ça aussi, c'est des besoins de base et il faut pas les nier. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que Manfred Max Neef dit, pour répondre à ces besoins qu'on a tous, et sachant que ça, c'est les besoins humains, ils sont limités en nombre, ils sont communs à toute l'humanité, ils n'ont pas changé depuis des siècles, c'est juste en fonction de notre culture et de notre époque que la manière d'y répondre va changer. Et c'est ce qu'il appelle des satisfacteurs. Et par exemple, il y a des satisfacteurs qu'il va appeler, alors j'ai oublié le nom, mais en gros, qui sont à côté de la plaque. Typiquement, j'ai soif, je vais boire un soda. On va pas du tout étancher la soif, on va même l'empirer. Et il y a des satisfacteurs qu'il appelle synergiques, qui vont, par la mise en œuvre d'une solution, répondre à plein de besoins d'un coup. Et ça, c'est intéressant de se poser la question quand on veut acheter un truc ou quoi que ce soit, de se dire, attends, à quoi en fait, c'est quoi le besoin qui est caché derrière ça ? Et de pouvoir prendre un peu de recul avant de se dire, ok, c'est peut-être pas la meilleure solution, il y a peut-être quelque chose de plus simple à mettre en œuvre, de plus écologique, de plus durable pour moi, etc. Donc je vous invite à aller regarder ce truc de manière plus à tête reposée. Mais c'est un bon moyen, je pense, de prendre du recul sur ses besoins avant de se dire, tiens, il me faut ça. Autre petit exemple pour illustrer un peu l'approche low-tech et des petits concepts intéressants qui vont avec, c'était au Maroc, on avait rencontré des entrepreneurs d'une entreprise qui s'appelle Go Energyless. Eux, ils ont repris un vieux système ancestral pour faire du frais qu'on appelle le frigo du désert, ou le zirpot. Ça, vous avez peut-être sûrement déjà vu passer. C'est une poterie en fait qu'on vient humidifier. On met des aliments à l'intérieur, notamment des légumes. On met un couvercle. Et quand l'eau dans la poterie va venir au contact de l'air extérieur, elle va se transformer en vapeur d'eau. Et en physique, c'est le même principe que notre transpi. Quand il y a un changement d'état, il y a besoin d'une grosse part de calories pour ce changement d'état. Et du coup, une partie de ces calories vont être prises à l'intérieur de la poterie, ce qui va réduire la température de la poterie, à l'intérieur de la poterie jusqu'à une dizaine de degrés par rapport à la température extérieure. Donc, ce n'est pas vraiment un frigo, mais ça permet par exemple à des maraîchers, des maraîchères qui vont avoir des tomates qui vont pourrir en 2-3 jours, de les faire tenir jusqu'à une petite semaine. Donc, ça améliore le modèle économique. Pareil pour les foyers, ça fait moins de gaspillage, etc. Donc, eux, ils ont repris ce principe-là. Et puis, ils ont remixé ça avec des connaissances contemporaines qu'on peut avoir en ingénierie, en marketing, par exemple en ingénierie pour travailler la porosité de la poterie, etc. Et ils ont bossé avec tout un réseau de potiers et de potières qui est vraiment une compétence qu'on va retrouver même dans des endroits circulés, là où ce système peut être pertinent parce que les réseaux d'élecs ne sont pas encore arrivés pour mettre des frigos, par exemple. Et du coup, aujourd'hui, il y a plus de 1000 systèmes qui ont été produits, diffusés, voilà, et ça grandit tranquillement. Et ça, c'est pour illustrer une notion qui est assez importante avec l'approche low-tech. On n'a jamais eu autant de connaissances qu'aujourd'hui. Et par contre, l'humanité, avant qu'il y ait en gros les robinets du pétrole qui se ouvrent à fond, on avait fait preuve d'une ingéniosité incroyable pour répondre à nos besoins. Et il ne faut pas se dire ce qu'il y avait avant, c'était nul. Il faut plutôt se dire comment est-ce qu'on peut regarder les trucs qu'il y avait avant avec un nouveau prisme. Il y a une petite citation de Jacques Bergier que j'aime bien qui dit « Il faut voir les choses anciennes avec un œil neuf ». Et je trouve que c'est complètement vrai, ça va très très bien avec l'approche low-tech. Alors pour continuer, autre petit exemple qui était un peu plus tardif ça, sur notre projet, sur notre tour du monde, c'était à Auroville en Inde. Donc Auroville, c'est pas très loin de Pondichéry. C'est une cité qui avait été créée par une Française et un Indien dans les années 70, qui est un peu utopique. Voilà, il y a plein de choses d'un point de vue spirituel, technique, etc. Donc chacun vient y piocher un peu ce qu'il veut. Nous, ce qui nous intéressait notamment, c'était le concentrateur qu'il y avait sur un concentrateur solaire qu'il y avait sur la cuisine centrale d'Auroville, qui permet de produire en gros un tiers de l'énergie nécessaire pour faire de la cuisson, en fait, qui produit 1000 repas par jour, si je dis pas de bêtises. Et donc ça a été construit dans les années 70. C'est un gros bol en béton qui fait grosso modo 13 mètres de diamètre. Ils se sont amusés à coller les miroirs un par un et à faire en sorte que la réflexion du soleil arrive sur une tige centrale. Donc c'est pas un point focal, c'est une ligne focale. Et en fonction de la journée, il y a un peu d'électronique dans la tige centrale qui permet de suivre le soleil. Et il y a un serpentin en gros en cuivre avec de l'eau qui circule dedans qui génère de la vapeur. Donc ça, c'est intéressant parce que ça reste relativement simple. Ça fait un bon argument commercial. Il y a plein de gens qui viennent dans cette cuisine parce qu'il y a cette espèce de soucoupe volante sur le toit là. Et puis ça permet de faire des économies. Sinon, le reste, c'est fait avec du fuel en fait pour produire la vapeur. Donc ça permet aussi de moins de d'émanation de gaz à effet de serre. Et j'ai fait exprès de mettre cet exemple là après avoir parlé du frigo du désert parce que quand on regarde les deux systèmes, on peut se dire que ce truc là il est quand même plus complexe d'un point de vue technique que le frigo du désert qui est simplement une poterie. Là il faut quand même du béton, de l'électronique, etc. Et pourtant nous on considère que ça fait partie de la low-tech. Et en gros j'ai fait exprès parce qu'en fait on peut pas dire d'un objet en tant que tel dans l'absolu ça c'est low-tech, ça c'est pas low-tech. On peut pas dire d'un vélo c'est low-tech. Mais par contre on va être dans une logique de comparaison. Quand on a différentes solutions qui se présentent à nous pour répondre à un besoin, on va se questionner par rapport aux limites planétaires, par rapport aux besoins des gens localement, quelle va être la solution la plus pertinente pour répondre à mon besoin. C'est pas forcément d'ailleurs une solution technique, peut-être qu'elle vient de la cyosphère, peut-être qu'elle vient de la biosphère. Et du coup, c'est pour ça que depuis le début, je parle bien de l'approche low-tech et pas de système low-tech, parce qu'on va avoir, en fait, on est dans du comparatif, dans du relatif. Donc en gros, nos pieds sont plus low-tech qu'un vélo, mais le vélo est peut-être plus low-tech qu'une voiture. Et du coup, puisqu'on est dans une logique de comparaison, on va avoir besoin de critères qui vont nous aider à choisir la meilleure solution possible. C'est ce que j'appelle le deuxième pilier de l'approche low-tech, c'est les 7 critères pour low-techiser. C'est pas très joli comme mot, mais ça se comprend. Ça, c'est issu d'un travail qu'on avait mené avec plusieurs acteurs du mouvement low-tech en 2017-2018, notamment avec Philippe Biwix, dans le cadre de la Fabrique écologique. Pour essayer de repérer justement des critères qu'on peut utiliser quand on veut réfléchir à une solution. Donc je vais passer rapidement dessus. Le premier critère, c'est le degré d'utilité. Ça rejoint complètement la question du pourquoi dont je parlais au début, la question du besoin. Est-ce que la solution que je veux mettre en œuvre et potentiellement les dégâts qui vont être générés par cette solution, ça vaut le coup par rapport aux besoins auxquels je réponds? Si je prends le distributeur automatique de croquettes pour chat, on peut se poser la question. Si je prends un scanner ou un IRM dans un hôpital, c'est bourré d'électronique, de métaux rares, etc. Mais par contre, ça peut potentiellement sauver des milliers de vies. Donc, on va pouvoir questionner un petit peu comme ça le ratio. Donc ça, c'est vraiment le premier truc qu'il faut se poser. Et ensuite, on a d'autres critères. Il y a la capacité à durer. Est-ce que ce que je veux mettre en œuvre, notamment s'il s'agit d'une solution technique, c'est réparable? Est-ce que c'est interopérable? Est-ce que je peux faire appel à des compétences locales, si c'est pas moi qui peux le faire, pour le réparer s'il y a besoin? Est-ce que c'est simple, etc., etc. Il y a 3 critères là, qui sont assez similaires dans le fonctionnement. Il y a la consommation de matières premières, la consommation d'énergie et l'impact environnemental. En gros, notamment quand on parle d'un objet, il y a un cycle de vie, c'est-à-dire il y a le début, on va prendre des matériaux, etc. Il faut les extraire, il faut les transformer. Ensuite, on va le transporter. Hop, ensuite, il y a la phase d'usage et puis après, il y a la fin de vie. Il faut tout le temps avoir en tête, quand on est notamment en tant que citoyen, que quand on a un objet entre les mains, il s'est passé un truc avant, il va se passer un truc après. Il faut être curieux d'aller se poser un peu les questions de ces choses-là, en fait. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie. Et notamment dans la consommation de matières premières, on va pouvoir se dire, est-ce que ce sont des matériaux qui sont renouvelables ou pas? Est-ce que c'est produit dans des conditions sociales qui sont acceptables ou non? Par exemple, dans mon ordi, moi j'ai sûrement du cobalt dedans, et ça vient peut-être de mines au Congo où c'est fait dans des conditions de quasi-esclavage, par exemple. Voilà, on peut se poser ce type de questions. Dans la consommation d'énergie, c'est pareil. Par exemple, la voiture électrique, c'est pas une solution miracle. Il faut extraire le lithium, il faut faire les batteries, il faut produire l'énergie pour la mettre dedans, etc., etc. Il va se passer des choses aussi en fin de vie, parce que même si c'est recyclable, ça consomme de l'énergie. Donc la vraie solution, est-ce que c'est malin de trimballer avec soi une tonne de ferraille, ou est-ce qu'il y a peut-être des trajets qu'on peut faire en vélo? C'est ce genre de questions qu'on va pouvoir se poser. Voilà, impact environnemental, bah, on entend souvent parler du CO2, gaz à effet de serre, le carbone et tout. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait, il y a plein d'autres trucs à côté. Il y a la biodiversité, il y a tout un tas de... Bah, ça rejoint les limites planétaires, en fait. Et ça, faut pas l'oublier. Donc ça, quand on est un citoyen, c'est pas évident de trouver de l'info là-dessus. Par contre, dans une entreprise, il y a de plus en plus, justement, des empreintes qui sont calculées, qui deviennent obligatoires selon la taille de son entreprise, des analyses de cycle de vie. Et faut pas hésiter à les questionner, justement, quand on est un acheteur, les entreprises, en se disant bah, « Est-ce que vous avez de l'info sur le cycle de vie de tel ou tel objet, par exemple ? Est-ce que vous avez mesuré l'impact, etc. ?» Voilà, donc ça, c'est plus des critères liés à l'aspect écologique. Et il y a deux critères là qui sont assez spécifiques à l'approche low-tech et qui rejoignent complètement la thématique de cette foire, de l'émancipation, qui sont vraiment liés à l'impact social qu'on ne va pas retrouver par exemple dans l'éco-conception ou autre. Le premier, c'est le degré d'autonomie. Alors l'autonomie, ça ne veut pas dire vivre tout seul dans son coin comme un ermite, c'est plutôt de se poser la question de qui et de quoi j'ai envie de dépendre. Et quand on se pose cette question, en fait, on se rend compte que ça joue directement sur notre épanouissement. Il y a des trucs où on a envie que ça dépende que de nous-mêmes. Et quand on le gère, on se dit « Ah ouais, j'ai retrouvé de la maîtrise là-dedans et je suis content. » Moi, je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que je suis arrivé de là-dedans par le côté du bricolage. Et en fait, vous avez sûrement tous expérimenté ça, mais quand on fabrique un truc, même si c'est à moitié bancal ou à moitié de travers, ben en fait, on est content de l'avoir fait. Et on se dit « Bon, hop, ça au moins, je sais le faire. Je sais gérer un marteau, une scie sauteuse, etc. » Et petit à petit, on peut hop, reprendre du pouvoir d'agir. Il y a des choses, c'est peut-être pas nous qui souhaitons gérer, mais peut-être qu'on veut avoir la discussion possible avec la personne qui le gère ou avec la structure qui le gère, peut-être pour son électricité, son énergie, etc. etc. J'étais tombé sur une étude d'un psychologue américain, Angus Campbell, dans les années 80, qui avait fait une étude sur les critères au bonheur aux États-Unis. Et il pensait qu'il allait arriver en tête vraiment large devant, avoir une famille en bonne santé, etc. Et en fait, un des premiers critères, c'était la sensation de maîtriser son existence, pardon, comme étant un des facteurs les plus importants au bonheur. Et ça rejoint l'histoire du bricolage que je racontais avant. Mais en gros, plus on va reprendre du pouvoir d'agir, de se dire « Ok, ça, je veux que ça dépende de tel truc, ma bouffe, je veux que ça dépende de la maraîchère du coin, etc. Et » bah, plus, en fait, on va rentrer dans une logique d'épanouissement, à la fois individuel et puis aussi... sociale et collective au niveau local. Et il y a un autre critère, donc le dernier, c'est l'impact systémique qui rejoint complètement le degré d'autonomie. On vit dans un monde qui est de plus en plus complexe et la complexité, ça entraîne de l'exclusion. Et l'exclusion, bah, quand on est exclu, en général, ça va pas fort, on n'est pas très content, donc ça entraîne pas de l'épanouissement. Par exemple, si je prends le cas du numérique, il y a de ce qu'on appelle de l'électronisme, donc plein de gens qui sont laissés sur la touche parce que c'est galère d'aller faire ses déclarations en ligne, etc. Et ben ça crée de l'exclusion et ça crée du bah vraiment de la comment on peut dire du c'est pas de l'épanouissement, l'inverse, j'ai pas le mot qui me vient mais vous avez compris le truc. Et du coup une bonne solution ça va être de se dire bah comment ou du moins est-ce que avec ce que je peux mettre en œuvre ça va venir réduire un peu la complexité du monde dans lequel je vis. Et ça vaut le coup de se poser cette question là. Voilà, je vais pas trop me pencher là-dessus mais ça c'est ce qu'on appelle voilà, le deuxième pilier, les 7 critères pour choisir. L'idée, c'est pas d'avoir une grille qu'on peut compléter en mettant des points, c'est plutôt ça sert à se poser des questions en fait, quand on veut mettre en œuvre quelque chose. Alors, si je poursuis un peu le petit parcours, en gros, ça c'était en 2017-2018. On avait bien compris le premier principe des valeurs, là, on avait bien compris les critères pour choisir. Et avec Clément, que vous allez voir tout à l'heure vers 18h, il a un vélo générateur pour faire de la musique là. Et ben en fait, on avait envie d'aller creuser le sujet de l'approche low-tech dans le contexte de l'habitat en France et notamment pour notre contexte breton. Et on voulait, en gros, on avait en tête un peu la petite maison autonome qui soit agréable à vivre et qui soit la plus écologique possible. Et on a fait face à deux problèmes. Le premier, c'est que en fait, il y avait plein de systèmes techniques qu'on avait découvert sur le nomade des mers qui n'était pas du tout adapté à la Bretagne. Si je pense au four solaire, par exemple, il nous servait plus à récupérer de l'eau de pluie qu'autre chose. Et l'autre souci, c'était qu'il nous a manqué une méthode pour dérouler la conception de la manière la plus pertinente possible en partant de l'usager dans son contexte. Parce que les critères dont j'avais parlé juste avant, ils n'étaient pas suffisants. Du coup, pour répondre au premier souci, on a monté un projet qui s'appelait Low-Tech Tour. Donc pendant un an, en fait, on a sillonné nos campagnes pour aller rencontrer plein de gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Et c'est un peu là qu'on s'est dit c'est bête d'être parti à l'autre bout du monde parce qu'en fait, sur nos territoires, il y a plein de trucs qui se passent et ça vaut le coup d'aller fouiller un peu. Et pour répondre au deuxième problème, qui est plus une problématique de méthode, On s'est renseigné. En gros, nous, on n'invente pas grand-chose. Hein. On va plutôt agréger des solutions qui existent et puis on se les réapproprie. Et on est tombé sur l'association Negawatt. Je ne sais pas si vous connaissez Negawatt. C'est un institut qui travaille à proposer des scénarios qui tiennent la route d'un point de vue énergétique concernant nos objectifs 2050. Et ils ont une petite approche. Alors le schéma, je le trouve un peu galère, mais elle est pourtant très simple. En trois étapes qu'il faut respecter dans le bon ordre pour, on va dire, concevoir ou mettre en œuvre une solution de manière logique. La première étape, c'est celle de la sobriété. En gros, je vais prendre l'exemple du chauffage, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, je pense, pour l'illustrer. La sobriété, c'est, on parle en général à cette étape-là, pas du tout de solution technique. C'est plutôt une histoire de changement d'habitude. Et moi, je suis convaincu que nos histoires de transition, c'est pas du tout d'abord une histoire technique, c'est d'abord une histoire de logiciel de pensée et de changer notre petit logiciel de pensée et nos habitudes. Les solutions techniques, ça fait bien longtemps qu'on les a pour répondre à nos besoins. C'est par contre qu'il va falloir un peu qu'on change notre notion du confort, va falloir changer ce genre de choses. Et la sobriété, ça va être de se dire, ben, est-ce que c'est grave si je réduis un peu la consigne de température, quitte à m'habiller plus chaudement, comme vous l'avez préconisé certains ministres de l'écologie. Ça va être de se dire, est-ce que par exemple, je peux chauffer peut-être qu'une pièce et les autres, il n'y a pas besoin. Ou ça va être ce genre de choses, on va essayer de changer nos habitudes. Ça, c'est vraiment la première étape à faire. Et il ne faut surtout pas la zapper parce que en fait, c'est à cet endroit-là que tout va se jouer. Le reste, ça va dérouler tout seul. Là, j'ai pris l'exemple du chauffage, mais ça marche en fait sur l'eau, notre manière de consommer, etc., etc. Souvent, on dit qu'il faut 21 jours pour changer ses habitudes. Ça, c'est pas vraiment vrai. Il faut plutôt 3 mois. Donc, il faut se mettre un petit défi, en général, pour faire ça. Et là, j'ai pas de solution miracle. Si ce n'est que si on se dit du jour au lendemain, hop, je change d'habitude, des fois, ça va pas marcher. Mais par contre, si on se dit, par exemple, avec ses voisins, bah tiens, on va tester ça pendant une semaine. On se met des petits challenges, des petits défis ensemble. Ça permet de rendre le truc plus ludique et ça permet plus facilement, je trouve, de changer d'habitude. Donc une fois qu'on a fait cette étape, on peut faire celle d'après, mais seulement une fois qu'on a fait ça. C'est l'étape de... Alors eux, ils appellent ça efficacité. Moi, je préfère le terme d'efficience. Typiquement, dans le chauffage, ça va être de se dire, ok, par mon changement d'habitude, j'ai réduit déjà ma conso. Comment je fais maintenant pour que techniquement, je puisse réduire le nombre de calories nécessaires pour chauffer mon logement? Donc là, on peut commencer à parler de solutions techniques si besoin. Par exemple, isoler les pièces qu'on chauffe, etc. Ou mieux isoler les pièces qu'on chauffe. Ça va permettre de réduire sa conso. Et seulement une fois qu'on a fait cette étape, on peut passer à l'étape d'après, qui est l'étape du renouvelable. En gros, typiquement dans le cadre du chauffage, ça va être de se dire, bah, maintenant que j'ai réduit le nombre de calories nécessaires, comment je fais pour apporter ces calories de la manière la plus renouvelable possible? Donc on va regarder le panel de solutions qu'on a sous le coude. Typiquement, pour le chauffage, eh ben on peut se dire, tiens, il y a du soleil. Le soleil, quand ma voiture elle est garée, même en hiver au soleil, il fait chaud dedans. Donc peut-être que je peux utiliser le soleil pour faire de l'air chaud. Ça peut apporter une part de calories. Mais en Bretagne, bah, des fois, il pleut plusieurs jours d'affilée, donc ça n'a pas généré de la chaleur, surtout l'hiver. Donc on va peut-être partir sur des poêles de masse à haut rendement, ce genre de choses. Et on va dégrader le panel de solutions du plus renouvelable au moins renouvelable. Donc nous, on a pris ce truc-là. On s'est dit, ça peut marcher en fait... finalement dans tous les cas, pour l'eau, pour les biens de consommation et tout. Et on l'a juste encadré de deux étapes qui sont les mêmes, c'est faire l'état des lieux et refaire l'état des lieux. Quand je dis faire l'état des lieux, ça veut dire savoir d'où on part, d'un point de vue économique, d'un point de vue confort, d'un point de vue écologique, et de refaire l'exercice en fin de processus pour voir si on s'est amélioré ou pas. Parce que ça sert pas à grand chose de mettre en œuvre des trucs si on sait pas si c'est positif ou pas. Voilà, c'est ce que j'appelle le troisième pilier de l'approche low-tech, c'est la méthode du bon sens. Si on fait vraiment cette étape-là dans le sens-là, en partant de l'usager et de son logiciel de pensée, pour arriver si besoin vers de la solution technique, en général, c'est relativement pertinent pour concevoir quelque chose. Alors, un petit récap de l'approche low-tech, ben voilà, c'est les trois piliers avec les trois principes socles, les critères pour choisir et la méthode du bon sens. Ah oui, du coup, j'avais intégré des petits outils qui me semblaient intéressants vis-à-vis de la thématique. Toujours sur cette histoire de comment rentrer en action et de s'émanciper. Souvent, quand je parle de ça, les gens me disent « Ouais, bah, c'est cool, mais comment on fait pour mettre ça en œuvre dans nos modes de vie, etc. » Et pour rentrer en action, parce que c'est souvent ça, c'est que les gens ils savent pas comment rentrer en action. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'outil des cercles d'influence. Bon, du coup, là, c'est une petite parenthèse. Hein. Désolé, ça fait un petit virage, mais je pense que c'est important. En gros, dans nos vies, il y a des trucs qui nous énervent. On aimerait bien agir dessus, mais en fait, on n'a aucune prise ou quasiment pas. C'est chiant. Du coup, il faut le noter quelque part. On va appeler ça le cercle des préoccupations. On va faire notre petite liste là-dedans. Il faut se dire une bonne fois pour toutes, bah, en fait, ça, je peux pas agir dessus, donc je vais laisser tomber, ça sert à rien de me prendre la tête avec ça. Ensuite, il y a des trucs qui nous énervent, et je sais que je peux avoir un peu d'influence là-dessus. Typiquement, localement, je peux peut-être aller faire un peu de lobbying auprès des élus locaux pour faire bouger des trucs, ce genre de choses. Ça demande de l'énergie, mais c'est possible de faire bouger. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions dans le cercle d'influence. On va les noter, et on va se dire, je vais allouer 20% de mon énergie là-dessus. Et puis, il y a des trucs qui m'énervent. Je peux les faire bouger parce que en fait, je suis le seul maître à bord pour les faire bouger. Du coup, je vais les noter dans ce que j'appelle le cercle de contrôle. Et là-dessus, on va mettre 80% de notre énergie. Et ça, dans la logique, notamment vis-à-vis du degré d'autonomie, de sans capacité, de passer à l'action, de reprendre le contrôle, le fait de faire ça, de se mettre en action sur ces choses-là, dans le cercle de contrôle, ça permet de se mettre en mouvement hyper facilement, hyper rapidement, et d'en tirer de la satisfaction, et puis en fait d'embarquer du monde avec soi. Voilà, bon bref, c'était une petite aparté, mais ça me paraît sympa comme outil vis-à-vis de la thématique de la foire. Et en gros, quand on a appliqué la petite approche dont j'ai parlé tout à l'heure, et notamment l'outil du cercle d'influence sur le projet de la petite maison, là, on a conçu cette petite maison qu'on a fabriquée chez un fabricant de tiny house, d'ailleurs, qui est sur la foire aujourd'hui, c'est Jean-Daniel Blanchet. Donc il nous a accueillis, on a fabriqué la tiny chez lui, et puis on a installé dessus une dizaine de systèmes pour être autonome en eau, en énergie, de la manière la plus écologique possible. Et on a vécu dedans pendant un an, et on s'est observé comme des cobayes sur les critères économiques, écologiques, et puis de confort. Donc on s'est entouré de personnes pour nous aider à faire des mesures, des interviews, etc. Pour faire un petit tour rapide de la maison, donc ça c'était dans un pré à Concarneau. On n'avait pas d'accès à l'eau, donc c'était l'eau de pluie qui nous servait de source d'eau. On récupérait l'eau de pluie, on la stockait dans une cuve. Après, on avait des systèmes de filtration différents en fonction de l'usage. Ça sert à rien de potabiliser toute l'eau dans une maison, ça encrase des filtres pour rien. Donc par exemple, 20% en général dans une maison, 20% de la conso d'eau, c'est pour la chasse d'eau. Donc là, on peut vite faire une croix là-dessus en se disant « si je mets des toilettes sèches, ça permet d'économiser 20% d'eau ». Ça évite de faire caca dans de l'eau potable au passage, c'est pas mal. 40% de la conso d'eau, c'est pour la douche. Donc on s'est dit, ça sert à rien d'avoir de l'eau potable pour se doucher, on veut juste qu'elle soit propre. Donc on a mis certains filtres qui s'encrassent du coup moins vite que si on potabilisait tout. Voilà, et puis on faisait gaffe à notre conso et aux produits qu'on utilisait. Et puis bah, pour les 5 à 10% qui sont nécessaires d'être potables, là on avait un petit filtre Berkey, j'imagine que vous allez en trouver aussi sur la foire, des petits filtres à charbon qui permettent de potabiliser l'eau. Et du coup, ben voilà, un peu pour le cycle de l'eau. Et ensuite, hop, on l'utilisait, puis ça ressortait dans une petite station de phytoépuration. Donc ça, c'était un point super important pour la mairie, c'était qu'on gère l'assainissement, ce qui est normal. Et du coup, on a bossé avec Aquatiris pour mettre au point ce petit système d'assainissement. Donc en gros, c'est un filtre planté, puis les petites bactéries qui vont se développer là-dedans vont faire le boulot d'épurer l'eau avant que ce soit renvoyé dans l'environnement. C'est intéressant parce que souvent dans les villes, par exemple, où quand on a le tout à l'égout, on ne sait pas trop ce qui se passe après la bouche d'égout. Donc ça va vite des fois d'avoir la main, on a un vieux produit, on ne sait pas trop quoi en faire, on le met dans l'évier. En fait, dans les stations d'épuration, c'est quasiment la même chose qui se passe. C'est des petites bactéries qui viennent dégrader nos impuretés. Donc si on met des produits chimiques là-dedans, ben, en fait, on va défoncer le système duquel on dépend. Et le fait de l'avoir sous les yeux, là, si on mettait un produit un peu merdique, ben, en fait, on va voir le truc mourir devant nos yeux, donc on n'a pas trop envie. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est que ça permet de recréer aussi de la responsabilité des systèmes desquels on dépend. Donc voilà pour le cycle de l'eau. Si, on avait quand même un chauffe-eau solaire là, qu'on avait fabriqué avec des grilles de frigo recyclées qui nous permettaient de produire l'eau chaude. Au début, j'avais voulu relier ça avec un échangeur sur un poêle, mais c'était une galère pas possible et on s'est rendu compte qu'on n'a pas eu d'eau chaude pendant 6 mois. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait très bien juste avec le solaire. Pour le chauffage, alors on voit pas très bien, mais en gros on avait un capteur air chaud là, c'était un mur d'ardoise avec une vitre qui, en gros, quand il y a du soleil qui tape sur la face sud en hiver, ça nous générait à peu près 20% de l'énergie pour le chauffage. Le reste, c'était un petit poêle de masse là qu'on avait fabriqué qui permettait de chauffer la maison. Donc c'est un système de rocket stove. Vous allez pouvoir en voir pour la cuisson là-bas avec Blandine, si je dis pas de bêtises. Sauf que au lieu de faire la bouffe avec, nous on avait du sable autour. Et donc on vient chauffer le sable pendant 2 heures, et puis après c'est le sable qui restitue sa chaleur pendant plusieurs heures dans la maison. Voilà, et pour l'élec, alors c'est là que l'approche elle prend tout son sens, c'est qu'en vrai il n'y a pas de système low-tech ou simple pour fabriquer de l'électricité. L'électricité c'est une énergie raffinée, c'est pas facile à faire, ça nécessite des matériaux assez polluants, etc. Donc le vrai job c'est de se dire pourquoi j'ai besoin d'élec. Et quand on fait ce travail, on se rend compte que, enfin pour nous en tout cas, on avait besoin d'élec pour notre téléphone, notre ordi, de la musique et de la lumière. Et ça, c'est... Et des petites pompes à droite à gauche. C'est quelques dizaines de watts en instantané, ça consomme rien du tout. Dès qu'on veut faire de la chaleur, on passe dans l'ordre de grandeur du millier de watts. Donc faut surtout pas se dire, si je veux être autonome en énergie, si on veut commencer à être autonome et de faire sa chaleur avec de l'élec, il nous faudrait un champ de panneaux solaires. Donc ça, c'était hors de question, ça coûte super cher et puis ça a un impact environnemental très fort. Du coup, on s'est dit, tout ce qui est de la chaleur, on va le faire différemment. La cuisine, par exemple, bon, là, pour le coup, c'était du gaz de cuisine, du gaz de Poutine, j'imagine, sûrement, d'ailleurs. Mais voilà. Et du coup, on a réduit notre consommation, enfin, notre production avec deux panneaux solaires de 250 watts, crêtes, et c'était largement suffisant. On en utilisait un l'été et deux l'hiver. On avait une conso de 300 watt-heure par jour, ce qui est rien du tout. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que dans notre bilan environnemental et économique, c'est ça qui nous prenait la moitié de notre bilan environnemental et aussi économique. Donc, et pourtant, on avait vraiment réduit à fond. Hein. Voilà pour ça. Et après, bon, là, vous voyez, on avait remis un peu au goût du jour le garde-manger avec différentes ambiances, donc des clés avec les légumes dedans. On avait fabriqué une petite fenêtre qui donnait au nord et on avait suspendu un garde-manger à l'extérieur. Donc ça nous servait un peu de frigo en hiver. Et puis l'été, on avait un petit frigo de bar qui était allumé... Et ça tombait bien parce qu'on avait des surplus d'électricité. En gros, voilà. Et résultat des courses, c'était... Ah oui, bon, ça c'est une petite photo de l'intérieur. Hop. En gros, sur un an, donc, rendre la petite maison autonome, ça nous a coûté 3 500 € de matériel. J'ai pas la main d'œuvre parce que c'est nous qui avons construit les systèmes. Et en gros, sur un an dedans, on a eu 150 € de flux. C'était le gaz pour la cuisine et les machines à laver qu'on faisait à l'extérieur. Donc c'était un super pour nous... Un super résultat économique. Sur l'aspect carbone, alors on a fait une analyse de vie simplifiée que sur l'indicateur carbone parce qu'on n'avait pas les moyens de faire sur tous les autres indicateurs, la biodiversité, etc. Donc c'est pas exhaustif comme résultat, mais ça nous donne quand même des indices que ça va dans le bon sens. En gros, alors le chiffre que je vais donner, il faut le prendre avec des pincettes, on a mesuré une réduction par 70 par rapport aux moyennes françaises. De mode de vie dans l'habitat. Il ne faut pas retenir comme ça le chiffre de 70 parce que ça veut tout et rien dire. On était deux célibataires sans enfants dans une petite maison, enfin bref, déjà bien avertis des modes de vie plus sobres. Mais en tout cas, ça indique bien que ça va dans la bonne direction. Et puis, la troisième notion, qui est celle du confort, et je pense que c'est celle peut-être la plus importante à partager parce que souvent, on se dit « Oh là là, va falloir, ça va être un retour en arrière, un retour à la bougie de changer pour être plus écolo, etc. » En fait, nous, au bout d'un moment, alors il y a des trucs qui n'ont pas marché au début, hein, je parlais tout à l'heure de l'eau chaude, etc. Mais au bout d'un moment, la petite maison, elle fonctionnait super bien. On avait tout le temps de l'élec, tout le temps de l'eau, on n'a jamais eu froid, etc. Et en fait, ça devient un peu un jeu de gérer les ressources. Il pleut, on va regarder le stock d'eau qui monte. S'il pleut pas trop, on fait gaffe à comment on prend notre douche. On voit la jauge d'électricité qui monte quand il y a du soleil. C'est un peu comme les geeks qui jouent à l'ordi là, sur Age of Empires. En fait, ça permet de gérer un peu ses ressources et ça devient super ludique en fait, de vivre dans une petite maison. Ça crée de la sécurité aussi, de savoir ce qui se passe derrière la bouche d'égout, derrière la prise électrique et tout. Et en fait, ça nous a créé une sorte de confort mental qu'on a mis, en tout cas pour nous, considéré au-dessus du confort matériel. Et ça, c'est un vrai truc qui me semble important à partager parce que souvent, au confort matériel, on se dit « Ouais, il me faut un SUV avec de la bonne musique, il me faut un smartphone avec tout un tas d'applis. Est-ce que c'est confortable d'être dans les bouchons dans son SUV? Est-ce que c'est confortable d'avoir un smartphone qui nous pourrit d'infos tout le temps ?» Ça permet de remettre un peu en relief aussi ce qu'on appelle le confort dans des modes de vie plus classiques. Donc voilà pour ça. Je regarde l'heure, il me reste 10 minutes. En gros... Je voulais faire un petit virage aussi par l'aspect professionnel. Là, ce que j'ai présenté, c'était plutôt sur les... En tout cas, c'est une approche qu'on s'est plutôt appliquée à l'échelle domestique en tant que particulier. En fait, quand on a une structure, une entreprise, une asso, une collectivité, c'est aussi une démarche qu'on peut appliquer, en fait. Avec trois questions, c'est pourquoi est-ce qu'on produit ? À quel besoin de ma communauté j'ai envie de répondre avec mon entreprise ? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser si on est un ou une chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'on produit ? Quelle solution je mets en œuvre ? Est-ce que c'est technique ? Est-ce que c'est un service ? Etc. Donc là, on peut s'appuyer sur des critères pour choisir la meilleure solution. Et puis, comment est-ce qu'on produit ? C'est quoi les valeurs qu'il y a derrière ? Voilà, donc ça, c'est trois questions qui rejoignent complètement ce que j'ai raconté avant. Tout ça... Dans le but du jeu d'avoir des meilleurs impacts environnementaux, quand on est une entreprise, il faut que ça fonctionne économiquement. En fait, on peut avoir des choses qui fonctionnent économiquement et puis ça permet de faire des économies sur certains postes, les dépenses d'énergie par exemple ou autre. et à l'impact humain, surtout comment on produit, quelle valeur, comment je veux bosser avec les salariés, avec les fournisseurs, etc. Et puis ça permet aussi d'aborder deux trucs qui sont complètement intéressés pour les boîtes, mais je pense qu'ils doivent être utilisés comme un moyen de levier pour aller dans le bon sens. C'est que c'est, en fait, ce type d'approche, ça permet de s'adapter et d'être plus robuste. Donc de peut-être pas viser des croissances à je sais pas combien de chiffres, mais de se dire bah en fait je vais être là dans le long terme, ça va fonctionner, je vais moins dépendre des fluctuations de l'énergie à cause des problèmes géopolitiques, etc. Bon voilà, je me suis dit que c'était intéressant d'aborder un peu ça. Et avec quelques petits exemples, ce dont j'ai parlé tout à l'heure ou jusqu'ici, c'est souvent des systèmes quand même qu'on va fabriquer soi-même, autoconstruits, etc. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui entreprennent pour proposer un peu sur étagère des systèmes tout faits. Tout à l'heure, je parlais du capteur air chaud, qui est un système pour récupérer le soleil pour fabriquer de la chaleur. Bah, il y a par exemple l'entreprise Airbooster qui a repris ce système-là et qui transforme du bardage industriel en capteur air chaud. Et par exemple, pour des boîtes de l'agroalimentaire, à condition que ce qu'ils produisent ne soit pas de la merde, ou par exemple pour faire du séchage de bois ou ce genre de choses, et bah, en fait, on peut transformer du bardage industriel pour générer beaucoup, beaucoup de chaleur. Voilà un petit exemple. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, dans le numérique aussi. On peut parler de low-tech et numérique, c'est pas du tout incompatible. Notamment, alors il y a une petite extension sur les navigateurs que j'aime bien, c'est Carbon Analyzer qui a été développé par le Shift Project de Jean Covici avec Gauthier Roussil. Ça permet en fait, quand on navigue sur Internet, de se rendre compte de ce qui est généré comme CO2 derrière. Parce que en fait, souvent, Internet, c'est le cloud, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est magique. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même des trucs physiques. Donc ça permet de se dire, bah, je suis en France, l'électricité, elle est faite au nucléaire, voilà ce qui se passe quand je regarde des vidéos de chatons sur Internet. Je suis en Pologne, c'est fait au charbon, hop, voilà les émissions CO2. Donc voilà, par exemple, on peut aussi travailler sur des sites Internet qui sont plus sobres, parce qu'on va mettre des photos moins lourdes. On peut aussi se dire, tiens, il y a une entreprise, par exemple, en Espagne qui vend des vêtements. Leur marché, c'est principalement espagnol. Ils s'en fichent qu'il y ait quelqu'un qui achète un slip à 2h du mat. Donc, ils éteignent les serveurs la nuit. Au passage, ça évite d'avoir des plages horaires sur lesquelles on peut avoir des cyberattaques. Donc, on peut aussi travailler en fait, à l'usage pour se dire en fait, il n'y a pas besoin d'avoir son site internet qui est allumé en permanence. On peut travailler aussi à la sobriété sur ce qu'on appelle le hardware, donc les aspects physiques du numérique, notamment pour les ordinateurs. Ici, c'est un petit Raspberry Pi. C'est un petit ordi qui est souvent utilisé dans le monde des Fab Labs et des bricoleurs, bricoleuses. Ça peut faire largement le taf pour plein d'utilisations. Moi, mon ordi, en fait, il a 8 gigas de RAM. C'est pas beaucoup maintenant, je pense, mais en fait, c'est bien de trop par rapport à ce que j'ai besoin. Donc, on peut vraiment réfléchir à de la sobriété numérique et dans l'usage, et dans le matériel, et dans le code. Et pareil, il y a une petite astuce moi, que j'aime bien pour rentrer en action, notamment dans les boîtes, c'est ce que j'appelle la stratégie du plan B. Parce que quand on parle à un patron ou une patronne, c'est si on lui dit ouais, faut passer à la low-tech, ouais, mais t'es mignon, je vais pas mettre en péril tout mon modèle économique, et bah, c'est de se dire on va allouer quelques moyens à côté, c'est le plan B pour tester quelque chose, et puis si le plan B fonctionne, bah, pourquoi pas le faire passer en plan A. Et donc ça, c'est en train de commencer à apprendre. Et. Ce qui est marrant, j'ai eu il n'y a pas très longtemps le retour du patron d'un chaudronnier industriel qui s'appelle le groupe 10. On avait fait une conf et il avait entendu ça. Et du coup, maintenant, là, il a créé. Donc lui, il s'est détaché de la direction. Il a embauché quelqu'un pour le faire. Et il est en train de mettre en place la stratégie du plan B. Il a créé une petite équipe pour se dire, est-ce qu'à partir des gisements de métaux qu'il y a autour, on peut fabriquer des choses de type véhicule intermédiaire. Et donc, voilà, qui serait plus respectueux sur toute la chaîne, depuis le début de vie jusqu'à l'usage, jusqu'à la fin de vie. Et j'ai envie de suivre de près cet exemple parce que ce serait la première fois moi, que je pourrais suivre de près l'application de cette méthode-là dans une grande entreprise. Voilà, et puis pour terminer, je vais être pas trop mal niveau timing, peut-être vous parler vite fait de la base low-tech, donc en train de voir le jour là dans les Côtes d'Armor du côté de Saint-Alban, donc ça a une petite heure d'ici en direction de la baie de Saint-Brieuc. Le but du jeu, c'était de transformer une ancienne friche artificialisée en un atelier partagé, comme je disais tout à l'heure, autour de l'artisanat et de l'agriculture, en y insufflant l'approche low-tech, avec trois missions. Le premier, c'est que ça puisse héberger un petit collectif de gens qui veulent entreprendre leur métier en allant expérimenter cette approche-là. Dans ce cadre-là, moi, je suis en train de démarrer tranquillement du maraîchage sol vivant. Il y a sûrement quelqu'un qui s'installera en boulangerie solaire. Il y a peut-être aussi des cadreurs de tout ce qui va être vélo cargo, petite logistique pour les artisans localement qui pourraient s'installer dans le bâtiment. Et que le lieu puisse aussi servir à faire du prototypage et de la recherche action, donc tester rapidement des choses, les diffuser. Et que ce soit un lieu de partage aussi, Par de la formation, enfin de l'accueil de personnes, que ce soit des particuliers, des étudiants, des entreprises, pour de la formation, des ateliers, etc., etc. Donc là, on est en plein dans la construction. Ça, c'est une photo qui date du début du mois d'août où on est en train de construire les fermes de charpente du bâtiment avec une technique qui a été diffusée par l'atelier paysan, dont vous allez sûrement entendre parler aussi parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir parler de cette structure tout à l'heure. C'est une méthode de construction en tronc brut qui permet à des agriculteurs de fabriquer des bâtiments assez grands à peu cher, de manière relativement autonome, parce que normalement il n'y a besoin que d'une tronçonneuse. En l'occurrence, nous on a dû mettre en œuvre aussi une scierie parce que les tailles étaient un peu trop grandes. Voilà, et je vais m'arrêter là. Hop. En gros, déjà merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager un peu que ce soit la conférence ou cette approche-là. Et puis on a des formations aussi qui existent, qui est un bon moyen à la fois de soutenir le projet et puis aussi pour vous en fait d'acquérir plus d'infos sur l'approche low-tech pour que vous puissiez la mettre en pratique dans votre quotidien, que ce soit pro ou perso. Merci.
Merci Pierre-Alain. Du coup, maintenant on vous propose un temps d'échange. Juste un petit principe de fonctionnement. Si vous avez une question, une remarque, vous levez la main, je vous repère. Et attendez d'avoir bien le micro en main parce que sinon on ne va pas vous entendre. Ok, si vous avez vraiment une voix qui porte, mais de manière globale, on va peut-être attendre le micro quand même. Alors, sachant qu'on est on n'est pas en high-tech là, on n'est pas en micro HF, donc le temps que j'arrive avec le fil quoi. Donc je note, hein, je vous fais signe. Enfin voilà, il y a le monsieur derrière pour commencer, après ce sera vous.
J'ai bien vu que ça avait tiqué au début.
Alors pourquoi le terme low-tech ? Pourquoi un anglicisme pour parler de cette notion ?
Quand on s'est intéressé au sujet entre 2010, 2012, là 2014, on s'est posé la question quand on a créé l'asso. Et en fait, au début, on était plutôt du fait de l'historique au Bangladesh dans un contexte d'ONG et international du coup, donc on cherchait un mot qui puisse être simple et compréhensible, enfin compréhensible en tout cas, de par l'anglais, compréhensible à différents types de pays. Il y avait aussi le fait qu'à ce moment-là, le mot low-tech, c'était un peu un mot valise où il n'y avait pas encore trop de définition derrière. Il y avait Philippe Biwix qui venait de sortir L'âge des low-tech, qui allait pas mal dans le sens qui nous plaisait. Donc on a pris ce mot-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me pose la question sur même tout simplement l'intérêt de ce mot avec le mot tech dedans, parce que en fait, on voit que c'est quand même plus large. Dans les années 60, il y avait, parce qu'en gros, on n'a rien inventé, nous, on remet juste des coups de peinture sur des trucs qui sont là depuis longtemps. Il y avait le mot technologie appropriée, par exemple, qui était utilisé, technologie intermédiaire. Il y avait technologie conviviale d'Ivan Illich, par exemple. Donc il y a tout un tas de mots en fait qui sont existants, qui veulent globalement dire à peu près le même truc. Mais en gros, voilà, nous, on était partis là-dessus. Et après, c'est vrai qu'en France, il y a eu un... C'est parti pas mal, et puis ce mot a été utilisé. Du coup, on est resté sur ce terme-là. Mais ça se questionne, je suis bien d'accord.
Alors, j'ai une question sur les poêles, les fours, et les fours solaires. Et puis, vous n'avez pas parlé des poêles solaires, mais... Je suppose que vous voyez ce que je veux dire.
Des concentrateurs pour faire frire des trucs, par
voilà,
exemple.
Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, les poêles solaires, dans le contexte africain, je le voyais, moi, comme un truc plutôt qui ferait gagner du temps et qui éviterait à des femmes africaines d'aller chercher très, très loin du combustible bois. Donc, plutôt quelque chose qui ferait gagner du temps qu'autre chose. Et les fours solaires, vous avez dit que, bon, dans le contexte africain... ça serait plus chronophage. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi ça serait plus chronophage qu'ailleurs, ces fameux fours solaires dans le contexte africain. Là, j'avoue que c'est une question. Et puis, sur la question des poêles solaires, je sais pas où ça en est en Afrique. Quels sont les obstacles à la diffusion de cette technique qui pourrait être avantageuse aussi bien pour le quotidien des femmes, qui sont elles qui font principalement la cuisine, ou d'une manière générale aussi pour l'état du Sahel, puisque avec la désertification, aller chercher du bois, ça pose de plus en plus de problèmes. Ouais.
Alors, bon, déjà, l'Afrique, c'est large et c'est plein de contextes différents. J'avais vu ça, c'était du côté du Sénégal, notamment. Sincèrement, je ne sais pas si c'est plus ou moins chronophage que d'aller chercher du bois, etc. C'est juste que un four solaire, il faut vraiment être derrière et vraiment en fait, ça monopolise le temps d'être vraiment derrière pour traquer le solaire en permanence. Genre, toutes les 10 minutes, il faut le remettre dans son axe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller faire d'autres choses à côté. Ah ouais, bah après, moi je vous raconte ce que j'ai pu voir, mais il y a ça pour les concentrateurs plus type friture, là sincèrement je sais pas. Après, par contre, pour vous donner d'autres petits exemples de d'autres choses auxquelles on pense pas forcément en tant qu'occidentaux, il y a des endroits où les fours solaires ont pas pris parce que localement la culture voulait qu'on se retrouve auprès d'un feu le soir et que si on voyait pas le feu, et ben en fait on n'avait pas en tête que c'était que ça cuisait. Enfin, culturellement, il fallait voir des braises et du feu pour associer ça à de la cuisson. Et du coup, on pouvait faire ce qu'on voulait pour essayer de diffuser le four solaire, ça prenait pas. Et il y a des trucs comme ça qui s'inventent pas. Ou par exemple, il y avait d'autres cultures où on va avoir tendance à faire à manger ensemble autour du feu de manière accroupie. Donc il faut des petits réchauds très bas. Et il y avait des contextes à Haïti en fait où les gens faisaient à bouffer debout. Il fallait des... Et en fait, ça c'est des trucs on peut avoir un principe d'ailleurs de four solaire qui fonctionne. Le principe il est simple, on fait rentrer du soleil dans une boîte et ça chauffe par exemple. Mais après, il faut vraiment passer du temps avec les localement pour peut-être adapter le système pour que ça prenne. Ou encore un autre exemple, ça c'était en Inde, toujours à Auroville, c'est l'entreprise Prakti qui fabrique des petits rocket stoves. Donc là on n'est plus dans le four solaire, on est dans du rocket stove comme là-bas. Donc ce sont des systèmes qui permettent, en gros sur la planète il y a 3 milliards de personnes qui font leur cuisine avec des feux de biomasse, de la bouse séchée, du bois, etc. Et souvent c'est fait, on appelle ça des réchauds trois pierres, c'est tout, comme un feu de camp, trois pierres, on met le bois au milieu et puis on met sa marmite dessus. Ça c'est un rendement merdique parce que dès qu'il y a du vent, il y a toute l'énergie qui part et tout. Et du coup depuis les années 60 justement, il y a des ONG, des entrepreneurs, entrepreneuses localement qui diffusent des systèmes dont le rocket stove, qui c'est tout simplement en fait un coude avec du bois dans la partie horizontale du coude et beaucoup d'oxygène qui arrive avec de l'isolant autour et ça permet en fait de vraiment de concentrer l'énergie sous le cul de la casserole grosso modo. Et du coup, Prakti diffuse ça. Et puis, en fait, à un moment donné, ils avaient un système qui se diffusait bien. Ils continuent leur recherche et développement. Ils lancent un autre système qui consommait moins de ressources. Ils comprennent pas, ça marche pas, quoi, ça se diffuse pas. Et ils ont galéré à trouver. En fait, c'est que le système qui se vendait mieux avant, il avait une bouche d'admission qui devait être ronde et en je sais plus si c'était de l'inox ou un truc comme ça, mais qui brillait un peu. Et l'autre, il était mat et il était carré. Et en fait, les Indiens voulaient le petit côté bling bling du truc qui brillait. Et ils ont mis du temps avant de capter ce truc-là. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que des fois, en fait, ça va complètement foirer parce qu'on n'est pas sur place où on va avoir un système technique qui fonctionne, mais on n'aura pas inclus tout le côté organisationnel, culturel et tout, quoi.
Et les poêles solaires, alors ?
Et les poêles solaires, j'ai pas l'info, je saurais pas vous dire. Comment ? La suite ? Ça va être de... Et ben là, pour l'instant, on va essayer de finir le bâtiment. Ça, c'est plutôt en... On va dire... En petit comité, on va dire, avec des pros du... Voilà. Et on commence à cogiter potentiellement une asso. C'est vraiment tout frais. Donc, on verra s'il y a une asso qui germe d'ici là. En fait... Je voulais pas revenir avec des gros sabots et puis voilà, je voulais prendre le temps de rencontrer les gens localement et tout ça. Ah ouais, d'accord. Bon bah voilà.
Donc on parle de la base low-tech. Hein.
Ouais. Ben on pourra en discuter tout à l'heure si tu veux. Ce sera plus simple. Mais on cogite à une asso, ça permettra d'y... On y verra plus clair dans quelques semaines, je pense. C'est le sponsor principal. Non.
Excusez-moi, je vais quand même vous demander de prendre le micro, quitte à vous déplacer, parce que c'est pas facile avec le fil, parce qu'en fait, on enregistre aussi. Donc en fait, les gens qui vont poser des questions, on va pas entendre les questions dans l'enregistrement. Donc Je vais essayer de me déplacer, mais n'hésitez pas à vous rapprocher autrement, ou sinon, attendez que j'arrive. Et levez bien la main, je vous repère. Hein. Ne vous battez pas. Ah, du coup, j'ai calmé tout le monde. Concrètement, on fait quoi aujourd'hui ? C'est ça ? Vaste programme.
Bah, en fait, là, moi, je parle de l'approche low-tech. C'est un outil parmi d'autres pour se rentrer en action. C'est pour ça que j'ai fait un petit détour tout à l'heure par l'outil des cercles d'influence, parce que, en fait, on a tous des trucs à faire, que ce soit parler autour de nous, s'investir en politique, agir dans sa boîte si on a la possibilité. En fait, on a tous une marge de manœuvre pour faire quelque chose. Et rien que chez soi, en fait, on peut changer si on veut se mettre un garde-manger, si on veut... mettre des toilettes sèches si c'est possible. En fait, ça vaut le coup de cogiter. On peut se lister tout un tas de trucs. Ça se trouve, on a des moyens financiers, on peut soutenir des projets. Ça se trouve, on peut. En fait, il y a le panel d'action, il est énorme. Là, pour le coup, il faut juste avoir un peu d'imagination, je pense. Mais quand des gens me disent qu'on peut rien faire, je trouve que c'est un peu facile de se cacher derrière ça, quoi.
Ouais. Je te donne la parole.
Ouais. Bah, en tout cas, faut pas se foutre. Enfin. Moi, je parle via de l'approche low-tech, mais c'est effectivement, si on prend du recul, il y a tellement de possibilités d'agir, que ce soit en communiquant, en s'investissant en politique, dans des assos, des machins, des trucs, en aidant les autres, que c'est, le panel est très large.
Peut-être, Pierre-Hélène, tu peux parler du site internet du Low-Tech Lab, où il y a plein de choses accessibles aussi ?
Ah oui, bah oui, alors d'un point de vue très pratico-pratique et technique, ouais, si vous allez sur le site du Low-Tech Lab et vous allez dans les outils, là, il y a plusieurs trucs. Il y a un annuaire déjà avec plein d'initiatives qui sont rangées par zone géographique, en France, à l'étranger. Et puis, il y a l'outil Wiki qui est une sorte de listing de tutoriels qui sont plus ou moins aboutis parce qu'en fait, n'importe qui peut en créer. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore trop abouties. Puis, il y a des choses qui marchent très bien. Par exemple, vous allez retrouver le tuto du capteur air chaud, du poêle de masse, ce genre de choses. Et ça, vous pouvez... alors, si vous êtes bricoleur, bricoleuse, vous pouvez le faire. Et alors ça va être... ouais ça, c'est j'ai pas marqué le lien du site internet, c'est lotechlab.org si ça l o ouais c'est pas la même chose que ça, c'est l o w t e c h l a b.org. Ouais, c'est de l'anglais encore. Donc ouais, il y a plein de tutos si vous avez envie de bricoler, et puis ben si vous vous sentez pas, vous n'êtes pas bricoleur, bricoleuse, il y a de plus en plus de, on appelle ça des Fab Labs, encore un mot anglais, dans plein de villes. Je crois qu'il y en a un à Mur de Bretagne, j'ai cru entendre quelqu'un tout à l'heure qui disait ouais on peut faire ça au Fab Lab. C'est des endroits où en fait, Pontivy et Rostronin, donc c'est des endroits où on peut aller et on peut bricoler des trucs tous ensemble, il y a plein de machines, des outils, etc. Voilà.
Bonjour, une question. On brûle en Bretagne des tonnes de déchets, notamment des emballages, parce qu'on a l'impression de passer les emballages au tri et que c'est bon, on a fait une bonne action, mais en fait, il y a une grande partie des emballages qui sont brûlés. Et je me suis demandé s'il y avait eu une réflexion d'utiliser ces emballages et au lieu de les brûler ailleurs, de les brûler chez soi pour avoir notre propre chaleur, mais sans que ça pollue dehors. Est-ce qu'il y a une réflexion de ce type-là qui est en cours ?
Pour nous, en tout cas, non. Et sincèrement, je ne saurais pas dire s'il y a des initiatives là-dessus ou pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des billes d'infos là-dessus.
Ok. Merci.
Désolé.
Dommage.
Oui. Bonjour. Moi, c'est juste une évolution. Moi, j'ai commencé ma vie en faisant le minimum. C'est-à-dire que... à habiter dans un appartement tout petit et toujours faire attention à tout. Après, j'ai gagné de l'argent, j'ai dépensé le moins possible en faisant attention à ce que je faisais, ce que j'achetais, etc. Et pendant des années, ça a été ça. Aujourd'hui, j'ai plus les moyens et je suis rentrée dans le système comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai ma maison, j'ai le chauffage très correct. Voilà. Ça ne m'empêche pas de bricoler, de fabriquer. Et je suis un peu en colère parce que je me dis... moi, j'ai fait attention à plein de choses parce que je me dis... tout ne se renouvelle pas, il faut faire attention à consommer comme mes grands-parents, comme mes arrière-grands-parents. Et aujourd'hui, j'ai dit, j'en ai marre de toujours faire attention, Parce que finalement, bah, depuis 30 à 40 ans, on sait qu'on va arriver à là où on est aujourd'hui. Et ça, ça m'énerve un peu, franchement. Donc je continue à faire attention, mais tous ceux qui ont consommé, qui ont profité un maximum, et aujourd'hui on demande aux jeunes de faire attention. Et là, je suis en colère pour moi, mais pour tous ceux qui ont bien profité, et c'est vous qui allez galérer derrière, quoi.
Merci. Bah ouais, ouais, ben, en fait, ouais, ouais.
Et aujourd'hui, je sais plus comment, au niveau énergétique, moi, j'ai pas de solution, parce que je veux dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus de ce que j'ai déjà fait ? Ma voiture, c'est le dernier modèle. J'ai commencé en 2 chevaux, je travaille avec ma voiture, donc là, c'est le dernier modèle, mais c'est toujours plus, 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 et on fabrique toujours plus, plus, plus. Donc c'est vrai, pourquoi pas en profiter ? C'est vrai que j'aurais du mal à revenir en arrière. Surtout dans mon travail. Après, je ne dis pas que quand je ne vais plus travailler, que je ne vais pas revenir en arrière. Je ne vais certainement pas prendre celle à toute électronique, parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que c'était très agréable et très confortable. C'est toujours agréable et confortable. Donc maintenant, comment on fait pour diminuer et revenir en arrière? Si je prends juste le modèle voiture, hein, je ne prends pas... Voilà, c'est très compliqué. Le vélo, je suis d'accord, mais je me pose la question, vélo électrique ou vélo manuel? Vélo manuel, je préfère. Mais je suis obligée d'emmener mon vélo avec ma voiture parce que je ne peux pas tout faire à vélo. Voilà, c'est toujours des compromis et toujours des choses. Mais les communes ne mettent pas forcément en place certaines choses pour faciliter le vélo, le transport. À Rennes, si je prends l'exemple de Rennes, excusez-moi, Rennes, j'ai fait du vélo toute ma vie. Et puis à un moment donné, j'ai dit, mais il n'y a plus de place pour garer mon vélo. Mais comment ça se fait? Effectivement, tout le monde a commencé à prendre son vélo. Alors que si tout le monde avait commencé comme moi à prendre son vélo, eh ben on n'en serait pas en train de se dire, ah, comment on fait maintenant, quoi.
Alors je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse à apporter à ça, mais en tout cas, ouais. Bah c'est, en fait, il y a un truc de, en fait, en colère ou pas en colère, de toute manière, ou qu'on ait envie de bouger ou pas envie de bouger, en fait, on est tous dans le même bateau avec un stock de bouffe limité dans les cales. Donc, enfin, s'il y en a qui se gavent quelque part, il faudra serrer la ceinture à un autre endroit. C'est de se dire, est-ce que... comment on fait pour, on va dire, serrer peut-être un peu la ceinture, mais de manière joyeuse? Je pense qu'il est là, le vrai truc. Ouais.
Comme je l'ai vécu, j'ai beaucoup apprécié et je ne reviendrai pas en arrière. Je reviendrai facilement en arrière et je recommencerai exactement la même chose. J'ai apprécié tout ce que j'ai fait parce que je l'ai construit petit à petit et je n'ai pas eu tout à 20 ans comme je vois mes nièces, comme je vois mes cousins, comme je vois plein de choses. C'est impressionnant, quoi. Donc j'apprécie ce que j'ai fait.
Puis c'est des histoires aussi encore d'imaginaire, en fait. C'est quoi la réussite? C'est vers quoi? Enfin, il y a de ça, en fait, aussi. Donc ça vaut le coup de cogiter à ça. Et après, je suis d'accord, en fait, il y a un moment donné où on peut, bah, ça rejoint l'histoire des cercles d'influence, mais quand on a bien... Enfin, si, cet outil-là, on peut l'appliquer à plein de trucs, mais notamment dans la transition écologique. On peut avoir mis tout un tas de choses en place, et à un moment donné, bah, c'est sûr qu'on fait tous sa part, et les collectivités, il faut qu'elles fassent leur part, les boîtes aussi, l'État aussi, réglementairement, il faut que ça bouge. Et bah, c'est nos choix aussi électoraux qui vont faire qu'il y a des gens qui vont arriver au pouvoir, qui vont peut-être... Mais ça, c'est du long terme. Et puis, ben...
Alors qu'on aurait dû commencer il y a déjà 30, 40
ans. Ah bah ouais. Mais ben, c'est pas le cas, quoi.
C'est comme le cercle tout à l'heure.
Ouais. Mais bonjour. Nous, on est arboriculteurs, là, en bio, producteurs de jus de pomme. Et régulièrement, on remet à plat nos process de fabrication. Et c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir les questionner aussi d'un point de vue low-tech, quoi, voir qu'est-ce qu'on pourrait introduire. Et je voulais savoir si vous ou des gens comme vous étaient à même aussi d'apporter un regard et un conseil sur nos process pour voir comment on peut les faire, on peut les améliorer, quoi, et les faire évoluer.
Ça nous arrive des fois de bosser avec des entreprises pour justement faire un peu de propositions. Ça, on va dire que le réseau, là, il est en train de se structurer. Donc il y a des gens qui commencent à entreprendre des choses. Ça me fait penser à une initiative qui est née en Normandie, qui est née de Arnaud Créteau, qui a lancé une boulangerie solaire. Donc c'est le premier boulanger solaire en Europe. C'est intéressant son modèle parce qu'il a toute une réflexion autour de l'énergie et de se dire... Comment est-ce qu'on produit quand l'énergie est dispo, notamment le soleil? Et il a une méthode qui s'appelle la méthode TELED, T-E-L-E-D, qui est vraiment taillée pour les entreprises pour appliquer remettre en question ces process, justement, dans une logique que ça continue de rouler économiquement et puis aussi de réduction de ses impacts environnementaux. Comme ça, je pense que ce serait peut-être le truc le plus intéressant que vous pourriez aller voir, la méthode TELED. T-E-L-E-D. Et c'est Arnaud Créteau qui... Ouais.
Lauriane, tu peux rester par là, s'il te plaît.
Une autre question ? Oui.
Merci. Je rebondis sur les propos de madame là, qui nous dit revenir en arrière. C'est ce que tu as expliqué au tout début de l'exposé. On doit aller vers un futur différent. Revenir en arrière, c'est aller vers un futur différent dans le sens, moi j'aime bien le cochon sur paille, du vrai cochon. C'est ce que mes parents, mes beaux-parents élevaient. Donc c'est un retour en arrière, mais c'est aller vers le futur, un futur qui se conçoit plus partageur et plus écolo. Donc en fait, le retour en arrière que vous évoquez, c'est aller de l'avant quand même.
C'est ça l'émancipation.
D'autres remarques, d'autres questions ?
En tout cas, merci. J'espère que c'était pas trop speed et compréhensible ce que j'ai raconté. Je vous souhaite une.
Peut-être une petite dernière pour la route.
Je reviens à quelque chose de concret. Nous, individuels, particuliers, qu'est-ce qu'on peut apporter, sachant qu'on a tous nos maisons, nos voitures, notre chauffage, tout, voilà. Le confort, plus. Maintenant, comment on peut améliorer, à part consommer moins, ça peut se faire. Un pull en plus, comme vous disiez tout à l'heure, ça c'est ce que j'ai toujours fait à un moment donné. Mais aujourd'hui, plus on vieillit, plus j'ai froid. Donc ça, c'est plus compliqué.
Plus il faut mettre de pulls, monsieur.
Voilà, triple épaisseur. Non, vous inquiétez pas, la maison est suffisamment isolée, donc nous, on a déjà... Voilà. Mais je veux dire, individuellement et particulièrement, à part faire du vélo, enfin, je veux dire, on peut apporter quoi en plus ?
Je pense qu'il y a un moment donné, il ne faut pas aussi hésiter à s'investir dans des structures, ouais, en vrai des assos, de s'investir dans la vie politique. Je pense que c'est vraiment des étapes, une fois qu'on a un peu fait ce qu'on pouvait à son niveau, il y a les étapes après plus collectives, je pense, qui peuvent être activées. Quoi. Et puis quand... arrive un certain âge, on a de l'expérience, de trucs qu'on a réussi, de trucs qu'on a foiré, il faut partager ça, je pense. C'est un peu la période du partage, à mon avis, qui arrive. Donc, je pense qu'il faut s'investir dans le collectif, que ce soit au niveau de sa communauté locale, son quartier, etc. Je pense qu'il y a aider les autres, il y a tout un tas de trucs qui peuvent être activés, je pense.
Et si je peux me permettre, Pierre-Alain, j'ai entendu dans votre remarque deux choses qui m'ont un peu posé question. Retour en arrière et refuser de garder mon confort. Je ne suis pas sûr que le texte aille à l'encontre de ça. C'est comme l'agriculture biologique. Quand c'est arrivé, on parlait d'un retour en arrière. Déjà, je pense qu'on ne revient jamais en arrière. Ça n'existe pas. Et je crois qu'au contraire, c'est très... L'élotech, pour moi, c'est au contraire l'avenir. Et dans l'élotech, c'est aussi de garder un certain confort de mode de vie. Simplement, ce sont des techniques qui sont plus résilientes, moins consommatrices, Tu me dis si je me trompe, Pierre-Alain, mais moi, je vois pas ça comme un retour en arrière. Au contraire, je vois ça quelque chose de très futuriste, comme tu disais au début.
Je pense que c'est important de... Encore une fois, l'approche low-tech, c'est un outil, c'est un moyen, et on est dans une logique d'expérimenter des choses. Donc, il y a des trucs qui vont pas marcher. Par exemple, dans la petite maison, on a voulu tester un truc qui s'appelait le bokashi. C'est une sorte de compost, on va dire. Nous ça a complètement raté, ça a pué à mort, bref c'était pas confortable, donc on a arrêté, ça marchait pas. On a testé une douche à recyclage, on s'est rendu compte qu'on était complètement à côté de la plaque, on voulait réutiliser l'eau qu'on se mettait sur la tête, la filtrer, se la remettre dessus, enfin bref, et ça marchait pas bien du tout. Par contre on s'est rendu compte à un moment donné qu'à Concarneau il fait beau plusieurs fois par jour comme on dit, donc il y avait du soleil, il y a de la pluie, du soleil, de la pluie, donc des fois en fait on avait de l'eau chaude à foison, ça empêche pas de prendre une douche de 3 plombes chaude parce qu'en fait la ressource elle est là. Et c'est du coup, on perd pas du confort là-dessus. Le capteur air chaud, par exemple, c'est un truc qui est complètement transparent dans notre vie de tous les jours et ça marche bien. Les toilettes sèches, Alors psychologiquement, il y a des gens, ils sont en galère de faire caca dans un seau, mettre de la sueur dessus, puis d'aller le vider derrière. Ben en fait, petit à petit, par le changement d'habitude, en fait, t'es content d'aller mettre ton seau dans le compost, tu vois tous tes vers de terre qui sont là, et en fait, c'est ben, pour moi en tout cas, je parle pour moi.
Ça, c'était mes grands-parents.
Ouais, mais ben...
Ah non, parce qu'ils faisaient pas de toilettes sèches, ils faisaient le trou dans le fond du jardin, c'était pas du compost.
Bah, par exemple, allez voir, je sais que j'ai pas été le voir encore, mais ça doit être l'atelier bois d'ici, il y a une tiny house, il a dû venir avec une tiny house. Dedans, il y a des toilettes sèches quasiment à coup sûr. Et, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que. En fait, on a une image du confort dans la tête, et c'est pour ça que l'histoire des imaginaires, elle est importante, parce qu'il faut véhiculer d'autres images du confort. Par exemple, les voitures, tu vois, si les ingénieurs, ils avaient eu comme cahier des charges depuis 40 ans d'améliorer la deux chevaux, mais sans dépasser le poids et tout ça, on n'en serait pas là. Plutôt que de se dire, en fait, on va faire des bagnoles qui vont à 200, et puis en fait, on se fait flasher, et puis ça sert à rien. Et puis, en fait, plus on augmente la masse, et plus on va vite, plus il faut d'énergie. Donc voilà.
Il y a plein d'exemples concrets, en réalité.
À vrai dire, on a suivi l'évolution. À ma petite vitesse, mais j'ai pris... C'est-à-dire, c'est comme la publicité, elle crée le besoin. Et c'est ça que je regrette un petit peu, c'est qu'on n'a pas amélioré ce qu'on avait, on a continué à nous donner, enfin, à vouloir, t'as besoin de ça, on va créer le besoin, sans arrêt. Les essuie-glaces électriques, c'est pas forcément obligatoire. Enfin, il y a plein de choses, et on crée. Donc, c'est plus difficile quand de revenir en arrière, à 100%, revenir avec une deux chevaux aujourd'hui, je réfléchirai
mais,
à deux
mais
fois.
Mais je pense que c'est pas revenir en arrière, en fait, c'est aller différemment vers de l'avant, quoi. C'est prendre un virage.
C'est ça.
Moi, ce que je retiens, c'est ce que j'applique depuis longtemps, c'est la simplicité. La sobriété et la simplicité, c'est les mots-clés. C'est-à-dire les gadgets qu'on invente... Enfin, les choses absurdes, ridicules, qui restent des gadgets, ça, il faut s'en détourner. Et il faut retrouver des choses de base. On peut vivre simplement et confortablement. Moi, j'ai que des toilettes sèches chez moi et je trouve que c'est très bien. Et l'avantage, c'est que quand je mange des tomates, après, dans mon compost, je retrouve les graines. Et mes plants de tomates, ils poussent tout seuls. Donc, j'ai même plus besoin d'en acheter. Donc en fait, et c'est pas du tout ragoûtant. Enfin, franchement, si c'est bien, c'est facile à gérer. En fait, des toilettes sèches. Par contre, moi, je pense que je suis arrivée au top de la sobriété, de la simplicité. Et maintenant, quand je reçois des gens chez moi, pour moi, ce qui est devenu naturel et normal, enfin dans ma norme, je m'aperçois quand je reçois des gens que je suis sur une autre planète. Parce qu'il y a encore des personnes qui se lavent les dents laissant l'eau couler du robinet, qui ne veulent pas aller dans les toilettes sèches. Donc c'est la preuve par l'expérience, montrer que ça ne sent pas mauvais, montrer comment on gère un compost et qu'est-ce qu'on fait de ce compost. Et c'est montrer qu'on peut vivre dans le confort simplement, sans sentir mauvais non plus d'ailleurs. Et justement, une fois qu'on a réussi à obtenir un certain niveau, il faut montrer par l'exemple. Et je pense que et faire partager son expérience. Parce que souvent, il y a des a priori. C'est culturel, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais on peut être heureux. La sobriété heureuse, elle existe.
Tout un programme politique.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, remarques, ou vous voulez vous arrêter là? Alors, j'ai l'impression que c'est voilà qu'on va passer à la table ronde suivante sans tarder. Je vous invite quand même à aller voir les nombreux ateliers et à participer aux nombreux ateliers pratiques qui sont notamment autour des low-tech, mais pas que. On a parlé four solaire, on a parlé rocket stove. Vous avez des exemples très concrets juste à côté de vous. Au niveau des ateliers juste à côté, donc n'hésitez pas à aller voir concrètement à quoi ça ressemble, ce sera peut-être plus parlant. Et voilà, et en vous remerciant d'avoir participé à cette table ronde.